Bon, on va démarrer tranquillement en attendant que le reste du public arrive, puis peut-être aussi quelques auteurs supplémentaires. On va donc parler de ce jeu qui est parfois un autre, de ces auteurs qui choisissent d'utiliser d'autres noms que le leur, finalement, pour publier. Parfois, c'est un choix de publier sous leur vrai nom d'un côté, sous un autre nom par ailleurs. D'autres fois, c'est carrément un choix de s'effacer, finalement, derrière ce pseudonyme. On va voir un petit peu tout ça. On va commencer avec vous, Alain Grousset. Parce qu'en plus, vous êtes intéressant à ce niveau-là à plus d'un titre, puisque vous êtes à la fois auteur, mais aussi éditeur. Vous êtes aussi quelqu'un qui a utilisé des pseudonymes. Donc, pourquoi ce besoin, je ne sais pas si le mot est juste, de recourir à un autre nom que le sien ?
C'est pour les impôts. Il y a plusieurs raisons. En fait, j'ai utilisé 5 pseudonymes. Enfin, entraînement, j'en suis à 5, oui, 5 pseudonymes. Mais à chaque fois, pour une raison différente, en fait. Alors la première, c'était, j'écris de très nombreux livres avec un autre auteur, qui est une femme, qui s'appelle Danielle Martinigol, et on avait pris un pseudonyme chez Nathan, qui est Kimal Dani. Là, c'était, on débutait notre carrière au début, on était, repérés par Hachette, et après Nathan nous a demandé d'écrire, alors on était un peu gênés, parce que c'était Hachette qui nous avait mis sur les rails. Alors du coup, on a dit, on va prendre un pseudonyme, et comme ça sera clair, ce pseudonyme appartiendra exclusivement à Nathan. Ça a été la première chose. On a réédité une deuxième fois avec Flammarion, parce que là, on a écrit à 3. Il fallait faire une série très vite sur de 12 titres sur 2 ans. Donc, on était 3 à écrire. Là, bon, ça paraît logique. On ne va pas mettre 3 noms sur une couverture.
Ça commence à faire beaucoup.
Et puis, encore un autre endroit où c'est quasi impossible, c'est sur la tranche. Donc là, on était quasiment obligé de prendre un autre pseudonyme. Après, j'ai fait un dictionnaire avec Guyot et puis Stéphanie et Nico. Donc là, c'était pour rendre un hommage à un de mes ancêtres qui s'appelle Pascal Grousset, mais qui œuvrait sous un pseudonyme qui était André Laurie. Donc là, j'ai pris Alain Laurie, mais c'était pour lui rendre hommage sur l'histoire de la science-fiction. Et puis actuellement je travaille pour des albums pour plus petits avec un autre auteur qui s'appelle Karl Norak, ce Karl Norak est un pseudonyme mais pour écrire tous les deux parce qu'il a une carrière à part dans les albums et donc on a décidé encore une fois de prendre un autre nom. On a les plusieurs raisons à chaque fois.
Alors c'est pas forcément parce qu'on a honte d'être l'auteur du livre qu'on publie.
Non, non, pas du tout. Il y a des avantages et des désavantages. Le désavantage, par exemple, pour Kimal Dani, on n'a pas eu le prix de Montreuil parce qu'il croyait qu'on était un auteur américain et qu'on n'allait pas venir ramasser le prix. Voilà. Bon. Les avantages aussi, c'est peut-être aussi de ne pas être trop présent. Je vois qu'il y a certains auteurs qui s'épuisent à... s'épuise par la force des choses parce qu'on écrit plusieurs livres, on écrit des albums, ça prend moins de temps, mais le nom apparaît en permanence et ça peut lasser pas les lecteurs, mais ça peut lasser les libraires par exemple, qui disent ah, c'est encore un nouveau titre, il en fait trop. Voilà. Donc des avantages et des inconvénients.
Alors évidemment, on va discuter de tout ça en compagnie de nos auteurs. Brice Tarvel, à votre tour, un peu même question. Pourquoi justement avoir à un moment donné choisi de prendre un nom de plume?
Moi, c'est particulier. J'ai commencé par mon véritable patronyme à une époque donc, où j'étais au balbutiement de l'écriture. C'était plus ou moins bien fabriqué. Et j'ai pris mon véritable nom pour faire plaisir à ma mère. Parce que ça lui semblait une horreur de s'appeler autrement que ce qui était sorti de ça.
Oui, une certaine fierté quand même aussi quand on voit son premier livre avec son nom dessus.
Non, j'ai jamais trop aimé mon nom. J'aime pas les prénoms composés. C'est le cas de mon véritable patronyme. Et puis j'ai toujours choisi mes noms de personnages avec un certain soin, la sonorité. Je trouvais que c'était très bien de se choisir aussi son propre nom, comme si j'étais un personnage.
Donc justement, il y a une vraie réflexion sur le nom en lui-même qu'on choisit. Il faut quoi que ça claque.
Moi, j'ai choisi Brice Tarvel, Brice, parce que ça fait ni jeune ni vieux. Ça peut faire l'un ou l'autre. Temporel, c'est court, Brice. Et puis Tarvel, à la sonorité. Après, je me suis rendu compte que Tarvel, c'était proche du mot voyage en anglais. Donc sur Google, il y a une douzaine, 15 pages Tarvel, et après, on passe aux choses sérieuses, au voyage.
Pour ceux qui auraient fait une faute de frappe. Quoi.
Après, je me suis rendu compte aussi que les deux initiales BT n'étaient pas très bien sonnantes non plus. Il y a même un copain qui m'a trouvé un anagramme de Brice Tarvel, vite cérébral. Alors, vous voyez, le vice va. Mais sinon, j'ai choisi d'autres pseudos en fonction de ce que j'écrivais, parce que j'écris des choses très diverses. J'ai aussi bien fait des adaptations de la Bible en bande dessinée, qu'en bande dessinée aussi la sexualité en BD. J'ai écrit des romans gore, j'ai écrit des nouvelles sentimentales chez nous deux. Donc là, j'avais un pseudo féminin, je m'appelais Roselyne.
Ah oui, ça va loin quand même.
Pour compartimenter un peu, j'avais mais pris...
Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser. C'est aussi c'est intéressant de voir qu'en en fonction du genre, finalement, ça devient presque impératif d'avoir un alter ego.
Oui, chez nous deux, ils voulaient qu'on ait un pseudo de femme. Voilà.
Très bien. Ça casse le mythe. Laurent Gidon.
Oui, c'est moi.
Alors, vous aussi, il y a le choix d'un pseudonyme et puis il y a le fait aussi également de publier sous le vrai nom. Là encore, pourquoi cette différenciation ?
Le pseudonyme était apparu d'abord, tout à l'heure, Alain Grousset disait « on n'a pas honte de son nom ». Non, moi, j'avais pas honte de mon nom, mais j'avais un peu honte de ce que je pouvais faire avec. Et quand il s'est agi d'aller dire des âneries sur les forums et de les dire très fort, j'ai préféré m'appeler Don Lorangy, qui est mon nom à l'envers, hein, Laurent Gidon, Don Lorangy, ça va pas chercher bien loin. Mais c'est vrai que pour crier « âneries !» vaut mieux s'appeler Don Locke, et puis après on arrête, c'est plus moi. C'était pas vraiment moi qui faisais ça. J'avais toujours la possibilité de dire oh, « non, non, c'est pour de rire, c'est pas moi ». Donc c'était plutôt par rapport à ça que j'ai commencé à apparaître sous Don Lorangy. Et puis un jour j'ai envoyé une nouvelle à quelqu'un qui l'a publiée et qui m'a dit « Ah ben puisque tu fais le zozo sous Don Lorangy et que ta nouvelle est rigolote, on va la signer Don Lorangy ». Et puis après Hélène ici présente, bonjour Hélène, qui dirigeait le navire en pleine vide, a publié mon premier roman qui s'appelait Aria des Brumes et qui n'est plus là. Et quand il a été question de savoir comment le signer, elle me dit bah, tu t'appelles Donlo, tu signes Donlo. Voilà. Donc je m'appelle Donlo, j'ai signé Donlo. Ça allait très bien jusqu'à ce que Mnemos décide de publier mon deuxième roman. Et Célia Chazelle, qui s'en est occupée, m'a dit or, l'année dernière, on s'est pris un razzi parce qu'on avait publié un Wayne Barrow alors que c'était des auteurs français. On va pas recommencer à risquer ça. Donc, Don Lorangy, c'est un peu trop exotique pour un mec des Alpes. Un crétin des Alpes. Non, c'est pas vrai. Et donc, on va la publier sous ton vrai nom. Moi, entre-temps, je m'étais dit, Don Lorangy, ça va être pratique. On va faire tout ce qui est science-fiction, fantastique sous cette étiquette-là. Et puis, je garde Laurent Gidon pour des trucs où je parle de mon nombril, par exemple. Et puis donc, on a fait de la fantaisie sous Laurent Gidon, donc le principe ne marchait plus. Et finalement, j'ai décidé, en désespoir de cause, de laisser choisir les éditeurs. C'est eux qui décident. De toute façon, c'est même quand j'écris, je ne me dis pas, tiens, je suis Laurent Gidon, je suis Don Lorangy, je suis moi. Puis après, un éditeur, s'il prend le manuscrit, il dira si ça doit être publié sous Don Lorangy, Laurent Gidon ou Edigar. C'est des étiquettes, ça ne me regarde plus beaucoup.
Alors un petit mot sur Wayne Barrow, parce qu'il devait être avec nous ce matin, puis il n'est pas là. Ils ne sont pas là, plus exactement, puisqu'ils sont deux derrière, c'est Johan Elliott et Xavier Mauméjean. Et effectivement, bah voilà, c'était aussi un petit clin d'œil qu'on voulait faire, mais bon, visiblement, Johan a un peu oublié de se réveiller ce matin. Voilà.
Je ne comprends pas du tout. Alors.
Oui, hein, c'est toujours facile de faire le café de 10h. Et encore, là, la soirée était relativement calme hier soir, non ?
Le début de soirée, oui.
Alain, est-ce qu'il faut... justement apprendre à structurer chacun de ses alter ego ou est-ce que c'est juste un nom de signature?
Comme les choses sont différentes effectivement entre l'album et puis les livres, je passe d'une étiquette à l'autre, enfin je change de personnage dans la compréhension et dans la recherche d'idées, mais sinon non, pas vraiment, enfin, bon,
dans la manière d'écrire
non plus. Non. La manière d'écrire, écrire seul, écrire à plusieurs, moi ça me change rien. J'adore écrire avec d'autres gens. Je trouve que c'est le plus grand partage qu'on peut faire. Je n'y vois que des avantages. Donc ça, j'écris souvent avec des femmes parce qu'elles amènent une sensibilité que je suis parfaitement incapable de traduire dans mes textes. Bon, j'écris avec Danielle Martignol parce qu'elle habite Juliena et qu'il y a du bon pinard. C'est une des raisons principales. Non, mais voilà, on ne gagne pas de temps à écrire à deux, loin de là. Mais c'est bien plus enrichissant. Mais sinon, non, je ne change pas mon écriture pour ça.
Pas à ce point-là quand même.
Non. Non.
Et ces alter-ego, on leur invente une existence ou ça reste juste vraiment le nom sur la couverture ?
Non, on peut s'amuser. On s'est amusé plusieurs fois de mélanger, de faire une bibliographie un peu qui rassemble un peu nos deux vies, par exemple, avec Daniel. Mais c'est assez rigolo parce que bon, on se cache pas, mais on ne dit pas ouvertement que c'est nous. Donc il y a des fois, même les libraires découvrent 5 ans après, ou là encore, ah bon, c'est vous qui faites ça. Donc voilà. Donc j'ai fait un album qui s'appelle Prout de Mammouth, et donc les gens pensent qu'on a pris un pseudo parce qu'on avait honte de faire ça. Or, bon, c'est grand.
C'est pourtant un album qui continue à faire bidonner mes enfants et ça me tortille aussi, moi. Donc, il n'y a pas de honte à avoir.
Non, non, surtout quand je reçois les droits d'auteur. Non, c'est pas de honte.
Et là aussi, alors, il y a plusieurs contes ou il n'y en a qu'un seul?
Non, non, c'est séparé en deux, malheureusement. Quoi. Donc, chacun lorgne sur l'héritage de l'autre.
Brice, là aussi, même question. Est-ce que justement, vous êtes un autre à chaque fois quand vous changez de nom d'auteur ?
Ah non, pas du tout. Je crois qu'on écrit toujours la même chose. On a son univers, sa façon d'écrire. Bon, le thème peut varier un peu, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, j'écris pour la jeunesse, j'écris des choses érotiques, des histoires gore, de la science-fiction... Mais ça reste quand même la même pensée, le même univers. Je crois que je n'ai pas un autre, je reste je.
Il est juste multiple.
Oui, voilà, c'est plutôt nous.
D'accord. C'est intéressant, mais ça fait un peu penser au livre de Stephen King, La part de l'ombre, où le pseudonyme qu'on fait disparaître finit par se rebeller contre son auteur.
Oui, oui, ça peut être intéressant, hein.
Mais là aussi, il n'y a pas de risque de se perdre finalement entre les différentes identités qu'on peut avoir en soi. Et ce n'est pas une schizophrénie non plus.
Non, non, du tout. Il n'y a aucun phénomène comme ça pour moi. Les seuls ennuis que ça peut représenter, c'est de recevoir un chèque signé Brice Tarvel. Ça complique. Quoique souvent, la banque ne fait pas attention, ça passe quand même. Et par contre, les billets d'avion, là, ça craint, surtout période terroriste et tout. J'ai eu des problèmes quand je montrais ma carte d'identité qui ne correspondait pas. Bon,
ça s'arrange, ça. On peut le faire rajouter sur les papiers, normalement.
Oh, je me suis renseigné. Il faut passer chez un notaire. Il faut deux témoins pour le certificat de notoriété. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faut payer.
Donc ce n'est pas forcément si simple que ça.
Et puis, il y a aussi recevoir un colis recommandé à la poste sous le nom de Brice Tarvel. Donc, j'ai un album avec une photo où il y a mon véritable nom. Donc, je fais une combine comme ça. J'amène l'album et puis je reçois mon colis.
Donne-le-Régime, Jim. Alors, vous, c'est un peu particulier puisqu'on l'a compris. Ce n'est pas vraiment un alter ego, finalement, ce pseudonyme. C'est plus...
Non, c'est moi à l'envers. Voilà. C'est comme si je marchais sur la tête. Donc, ouais, il n'y a rien de grave. Mais je reviens sur le jeu est un autre. C'est vrai que dans ce que j'écris, souvent, je me pose des questions et surtout, je me donne des interdits qui correspondent à une... c'est pas une posture morale, mais une façon d'envisager la vie et ce que j'ai envie de donner aux autres. Donc, en général, il y a peu de violence, il y a peu de... Il n'y a aucun des ressorts qu'on trouve dans le thriller, dans ce que j'écris. Sauf que parfois, ça me démange et j'ai envie d'écrire un truc bien dégueu qui est complètement en dehors de cette position où d'habitude, je fais attention à ce que j'écris. Donc là, j'ai sorti Eddie Gare. C'est une sorte d'hommage aux chaussures qui grincent du méchant Edgar dans Les Aristochats. Et donc Eddie Gare écrit des trucs grinçants où un type se réveille après avoir massacré sa femme à coups de fer à repasser parce qu'elle avait fait l'erreur de repasser ses chaussettes, des choses comme ça. Et c'est vrai que Eddie Gare, c'est peut-être un peu moi, mais c'est pas la plus belle partie de moi. Donc, j'ai pas envie de signer Laurent Gidon des trucs qui ont été ourdis par ce sinistre salopard d'Eddie Gare.
Il y a un revers à toute médaille.
Voilà. En revanche, je n'ai aucun des problèmes de billets d'avion ou de droits d'auteur de mes deux collègues. Donc,
ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'une génération aussi qui utilise Internet. Mm-hmm. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une génération aussi qui est naturellement vouée au pseudonyme ? Dans le sens où sur Internet, on publie rarement, on poste rarement avec son vrai nom.
Regardez cette jolie jeune personne à côté du photographe. Je ne la connais que sous le pseudonyme de Liz Bay. Alors qu'on se voit depuis 3 ans maintenant.
Donc effectivement, ça, voilà, y a cette nouvelle dimension de l'Internet qui ajoute à, voilà.
Le pseudo est presque naturel. C'est une étiquette.
C'est un prolongement de soi, voilà. Maintenant.
Mais c'est un prolongement qui est bizarre. J'ai fait des dédicaces dans un hypermarché, que je ne citerai pas. C'était très agréable. J'étais en face de la promotion saucisson et les gens s'arrêtaient devant moi en me disant « Pourquoi vous êtes tout seul là ? Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai écrit des livres, j'essaierai de les vendre. Et il y avait des annonces au micro. Et d'entendre dans un grand hypermarché quelqu'un qui annonce que Don Lorenzi est en dédicace, ça fait bizarre. C'était pas moi, quoi. Là, de l'entendre, autant quand Hélène me dit « Oh, Don Lot, t'es là !» Bah oui, je suis là. Quand un micro dit « Don Lorenzi est en train de dédicacer », j'ai envie de me retourner, il est où ? Bon, c'est pas encore tout à fait moi.
Et est-ce que ça désinhibe le pseudo ?
Oh oui, sur Internet, ça désinhibe. Vous n'avez qu'à voir les discussions sur les forums. Il y a des tas de désinhibés qui diraient jamais en face à quelqu'un ce qu'ils arrivent à dire sur un forum, de peur de se prendre une bonne droite. Mais donc oui, de ce point de vue-là, ils sont totalement désinhibés. En termes d'écriture pour un auteur, je ne pense pas. Sauf oui, si, puisque Eddie Gare me désinhibe de tout ce que je m'interdis pour Don Lo.
Ouais. Alain, vous êtes auteur, mais vous êtes éditeur aussi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des auteurs qui viennent vous voir et qui vous posent la question de savoir s'il faut qu'ils prennent un pseudo ou qui arrivent déjà avec un pseudo et puis bah, vous, ça vous convient, ça vous convient pas forcément ?
Non, parce que pour l'instant, ma collection, je ne fais pas appel aux manuscrits qui peuvent arriver comme ça. Enfin bon, j'en ai, je les lis d'ailleurs. Je les lis parce que bon, on ne sait jamais. Il y a peut-être avoir une perle, mais souvent c'est du travail de commande. Donc, je commande à des gens dont je connais déjà le nom, et même s'ils utilisent un pseudo, à ce moment-là, c'est un pseudo qui est connu par d'autres. C'est toute la réticence que peuvent avoir certains éditeurs de prendre quelqu'un sous un pseudonyme alors qu'il a déjà une carrière à côté, parce que bon, le meilleur endroit pour mettre une blanchisserie, c'est à côté d'une autre blanchisserie, et donc se servir du nom et de la notoriété, et là, redémarrer à zéro, ça pose quelquefois des problèmes ou des réticences, tout au moins de l'éditeur.
Oui, parce qu'un lecteur, ça se fidélise aussi au moment, voilà. On risque de le perdre au milieu des alter ego et des identités.
Oui, et puis des fois, au moment de signer un livre, des fois, ça arrive qu'on signe pas sous le bon nom. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Bon. Mais il y a une part de gens, enfin bon, qui n'existe plus aujourd'hui, mais je reprends l'exemple de ce fameux Pascal Grousset qui a vécu au 19e siècle. Lui, il a pris un pseudonyme parce qu'il était obligé de prendre un pseudonyme pour sinon il n'aurait jamais publié, puisqu'il était persona non grata en France. Il a eu toute une vie assez aventureuse, c'est-à-dire qu'il a... Il est né en Corse, son père lui a payé des études pour être médecin à Paris, et quand il est arrivé à la médecine, il a laissé tomber tout de suite, et il a voulu être journaliste. Et il a écrit un pamphlet sur un cousin à Napoléon III, ça ne lui a pas plu à ce cousin, et donc il a dit on va régler ça sur le prêt. Alors d'accord, Pascal Grousset a envoyé ses témoins, dont Victor Noir, qui était un journaliste à l'époque. La discussion s'est envenimée et le cousin de Napoléon III a pris un pistolet et a tué chez lui le témoin. Donc ça a été un grand scandale. Tout le monde s'est retrouvé en prison sauf le cousin de Napoléon III. Ce Pascal Grousset a pris conscience, une conscience politique qui s'est révélée au moment de la Commune de Paris, où il a été ministre des Affaires étrangères pendant 3 jours. Ça allait vite. Et il a été prisonnier, il a été rattrapé parce qu'il était déguisé en femme pour sortir. Et il s'est fait choper quand même. On l'a emmené dans un camp de vacances qui s'appelle Fort Boyard. Et là, il s'est enfui, mais les courants l'ont ramené. Donc après, il l'a envoyé en Nouvelle-Calédonie. Là, il a réussi à s'enfuir avec Rochefort. Il est passé en Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande, il est passé à Boston. De Boston, il est arrivé à Londres. Là, il a connu Stevenson. Ils se sont pris d'amitié. Et Stevenson était en train d'écrire L'île au trésor. Et Pascal Grosset a traduit L'île au trésor. C'est le premier à l'avoir traduit, puisqu'il se connaissait bien. Et il écrivait des bouquins. Et ces bouquins, c'est un curé qui les faisait passer, les manuscrits, sous sa soutane, entre Londres et Paris, et les a emmenés à Hetzel. Hetzel a trouvé ça pas mal, mais pas assez abouti à son goût, et a donné ça à quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Jules Verne. Et Jules Verne a rewrité ces trois manuscrits et les a signés de son nom, puisque c'était impossible à ce que Pascal Grosset les signe. Donc, en fait, trois romans de Jules Verne ne sont pas de lui, mais réécrits. Et voilà. Donc, il est revenu et en France, il a commencé à écrire sous le pseudonyme. C'est Hetzel qui l'a fait. Donc, ces gens-là ont eu toute une vie assez riche. Et en même temps, là, le pseudonyme était vital.
Indispensable.
Ouais, indispensable.
Brice, là aussi, au niveau de la réflexion, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du choix du nom, est-ce que c'est parfois, enfin même si là, il semble que vous, ce soit vraiment dans des genres très différents à chaque fois, donc on ne se pose peut-être pas la question de savoir si le lecteur va suivre.
Va suivre quoi ? Le pseudo,
oui.
Le nom
Va suivre l'auteur, finalement, puisque ça reste le même auteur, quand même.
Oui, je ne me suis jamais posé cette question-là.
Vous ne posez pas la question de la fidélisation de votre lectorat ?
Je m'applique à écrire pour lui, donc quand c'est pour la jeunesse, quand c'est des récits violents, j'ai ça en tête et je m'applique à faire du mieux possible pour le satisfaire, mais après ça m'appartient plus, c'est parti. Fidéliser, quand c'était dans nous deux, par exemple, vous imaginez.
Oui. Là, c'est le cas un peu extrême, quand même.
Dans des revues chez Fleurus, qui étaient distribuées dans les lycées catholiques, donc ils étaient fidèles à double titre, d'ailleurs. Donc, j'avais pas ce souci-là. Non, ils étaient fidèles sans que j'aie à gérer l'affaire.
Parce que, prenons l'exemple, vous publiez pour la jeunesse. Ces jeunes, ils vont grandir derrière. Peut-être qu'ils vont avoir envie de vous retrouver dans ce que vous faites d'autre après.
Oui, c'est arrivé, ça. J'ai écrit des Fleuves Noirs sous pseudo. Et donc, on connaît Brice Tarvel, la BD. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte que l'auteur du Fleuve Noir, c'est le même. Il y en a qui sont ravis parce qu'ils trouvent autre chose à se mettre sous la dent. Bon, ils ne sont pas légions, hein, mais c'est arrivé.
Est-ce qu'il y en a que ça déroute des lecteurs ?
Oh, oui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ma mère, en premier, j'en ai parlé. Paix à son âme. Il y a beaucoup de gens que ça déroute qu'on puisse prendre un autre nom que le sien. Comme moi, je trouve étrange que Christophe Lambert, on dit tout le temps, c'est l'acteur ou c'est... Je me serais appelé comme ça.
Le publicitaire, enfin, il y en a plusieurs. Hein,
j'aurais encore bien plus choisi un pseudo en ayant un nom comme ça. Ou j'avais un dessinateur d'origine maghrébine qui s'appelait Aouamri. À chaque fois, son nom était estropié. On me demandait comment ça s'écrivait. Je disais comme ça, s'éternue. des fois, on aurait intérêt à prendre un pseudo. Et puis, c'est amusant de prendre un pseudo.
Remarquez, je ne devrais pas le dire parce qu'elle n'est pas là, mais Rachel Tanner hier m'a demandé si c'était mon vrai nom. Alors, je lui ai dit oui. Il n'y a pas de souci, c'est bien mon vrai nom. Même question, alors, est-ce que justement, il y a des gens que ça peut dérouter, justement, que vous ayez ces alias?
Alors, les principales personnes que ça déroute, c'est les bibliothécaires.
Ça n'a plus vous ranger.
Voilà, quand je vais à la médiathèque et tout, je me fais souvent engueuler en disant mais arrêtez, de bon sens, c'est pas où vous ranger. Après les fiches, on découvre des trucs, alors on est obligé de. Voilà, donc là, on est dans le côté. Sinon, bon, allez, globalement, moi qui écris pour la jeunesse, bon, ça arrive que certains lecteurs vous déclinent complètement parce qu'ils vous aiment bien, mais en règle générale, les enfants s'en fichent complètement du nom de l'auteur. D'ailleurs, même l'éditeur s'en fiche quand il réfléchit. On regarde n'importe quel bouquin, il y a une grande place à l'illustration, le titre est énorme. Je ne pense pas que vous lisiez le nom de l'auteur là où vous êtes et on prend n'importe quel livre.
Il n'y a que les gros vendeurs maintenant qu'on les rend
voilà,
en plus
on met
que
toujours
le
nom de l'auteur en plus petit. C'est dans la commune des choses de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'on montre qu'en définitive, c'est l'histoire que vous achetez. C'est ça, c'est le plaisir que vous allez prendre ou pas à cette histoire, à ce livre. L'auteur est finalement accessoire. Quoi.
Pas et toujours quand même, parce
oui,
qu'on
mais
peut
bon,
accéder
sûr,
à une histoire par
après,
l'auteur.
On peut accéder parce qu'effectivement, on le décline, mais je ne pense pas que ça soit la grande majorité des lecteurs, premièrement, et puis de ce qui se passe pour une carrière d'un auteur. certains auteurs, effectivement, d'un seul coup, le nom passe avant quasiment leur texte, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est, oui, nous sommes des clowns qui nous planquons derrière notre...
Changer de maquillage.
Ben oui, voilà, c'est ça. Non, mais je veux dire, je sais pas, moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie, une fois dans le train, une fois il n'y a pas longtemps dans le RER. Où une jeune fille est en train de lire un de mes livres à quelques mètres de moi. Je n'ai jamais été lui dire, disons, c'est moi l'auteur et tout. Mais ça, ça fait très drôle parce qu'on est caché derrière les livres.
Voilà. Oui, c'est finalement, il n'y a même pas besoin de pseudo à la limite.
Pas besoin de pseudo, voilà, bien sûr, on est anonymat. Et lorsqu'on rencontre les élèves, souvent, et si on va dans des quartiers défavorisés, c'est est-ce que vous êtes connu ? Comment vous êtes connu ? Comment vous gagnez ? Ce côté très vedettariat. Et de leur dire que oui, non, on peut encore se promener sans qu'on nous arrache notre chemise et qu'on gagne 30 centimes par livre.
Mais quel intérêt alors ?
Monsieur, c'est pour le coup. Bon, voilà.
J'y connais ça.
Donc,
aussi,
le premier pseudonyme, c'est soi-même derrière ces livres. Et tant mieux, parce que c'est, je trouve ça quelque part un peu dommage. Comme n'importe quel auteur, le grand auteur, il fait des livres moyens et puis des livres sublimes. Donc les décliner tous, c'est une toccade pour moi, mais je pense plus qu'il faut taper livre par livre, qui est quelque chose qui va nous faire plaisir avant tout. Et l'auteur n'est qu'un passeur, quoi, c'est tout.
Laurent, est-ce que ça a dérouté des gens que vous ayez choisi d'écrire sous d'autres noms ?
Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain. L'auteur n'existe pas, c'est le livre qui existe. Mais l'auteur s'est fait plaisir en écrivant ce livre-là, quelle que soit l'étiquette. Mais à contrario, sur la fidélisation des lecteurs, c'est une libraire qui m'avait raconté ça. En gros, dans une collection Harlequin, je ne sais pas laquelle, les textes sont écrits, on ne sait ni par qui, ni pourquoi, ni traduit, et les noms d'auteurs sont attribués de façon aléatoire. Donc on peut avoir 5 romans du même auteur qui n'ont pas été du tout écrits par la même personne. Et la libraire s'était aperçue que, en gros, elle avait une cliente qui était très très fidèle à un auteur, et elle lui disait « essaye celui-là qui était d'un autre auteur », alors qu'il avait été écrit par la même machine. Et la cliente revenait en disant « Non, il ne m'a pas plu, je préfère attendre le prochain bidule. » Donc, il y a une sorte de projection aussi, en tout cas de certains types de lecteurs, sur ce que représente l'auteur au-delà de ce qui est écrit. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui achètent le dernier Musso, le dernier Lévy, le dernier Werber.
C'est ce que j'allais dire, oui, c'est quand même, on est quand même fidèle aux auteurs qu'on aime.
Voilà, mais parce que là, il y a un vrai produit derrière.
C'est une marque ?
Voilà, c'est une marque. De même qu'on regarde Colombo, pas parce que d'un Colombo à l'autre, il y a des choses qui changent, mais parce que d'un Colombo à l'autre, Colombo revient. Et les gens aiment pas tellement... Enfin, un certain type de public n'aime pas ce qui change. Il préfère retrouver là où il est confortablement installé, dans des codes, dans des styles. Il aime bien que Colombo arrive à la 12e minute avec son imperpar passé et puis il se demande où il va mettre ses coquilles d'œufs. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Umberto Eco dans un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Le mythe de Superman, où il démontre justement tous ces trucs de narration qui sont pour la plupart des trucs qui permettent de fidéliser le lecteur avec ce qu'il connaît déjà plutôt que de le surprendre avec quelque chose qu'il n'attend pas. Bon, mais ça s'adresse à un certain type de lectorat. En ce qui me concerne, que ce soit blague à part, que je vous montre, vous pouvez voir que c'est signé en très gros Don Lorenzi. Non, vous pouvez pas le voir, c'est vrai, c'est normal, c'est le titre qui est gros. Ou Jib le chanceur, ou Jib l'encourseur qui est ici en avant-première. Jib, c'est signé Laurent Gidon. Pourtant, c'est moi qui ai fait les deux. Pourquoi ça pose aucun problème à mon public ? Parce que ce public-là est constitué d'à peu près 300 ou 400 personnes qui zonent sur les mêmes forums et qui savent tous que Laurent Gidon de Laurent J, c'est pareil. Et quand, par un hasard extraordinaire, quelqu'un qui ne gravite pas dans cette sphère de l'imaginaire, dans une librairie, ne peut pas se retenir pour prendre un de mes bouquins, en fait, il se fiche complètement de savoir si c'est Laurent Gidon de Laurent J, le même...
Oui, mais s'il aime le livre, il aura peut-être envie d'acheter le suivant qui sera signé par ce nom-là.
Oui, et
parce c'est... que la différence, vous parliez de l'histoire tous les deux, mais peut-être aussi qu'à un moment, on achète moins l'histoire que le nom de l'auteur, tout simplement parce qu'on vous fait confiance. On sait que parce qu'on a aimé un de vos livres ou plusieurs de vos livres, derrière, parce qu'il y a ce nom, cette espèce d'imprimature dessus, on sait qu'on va en principe être conquis.
C'est tout à fait vrai, et c'est pour ça qu'après Jib le chanceur que voici... non seulement on a gardé Laurent Gidon pour Gible en Courseur, mais on peut voir qu'on a gardé aussi le même type de couverture, la même tonalité, pour que ceux qui ont aimé Gible le Chanceur, et heureusement il y en a eu quelques-uns, puissent partir de confiance dans Gible en Courseur et continuer le voyage. Mais je veux dire, on n'est pas encore dans du marketing à la puissance d'un Löwenbrück. Que la dernière fois que je suis arrivé à Gare de Lyon, il y avait des kakémonos Löwenbrück partout. Je dis, bon, bah oui, lui, il est devenu une marque.
La différence, c'est que l'auteur, on le connaît, et si on l'a déjà lu, on sait à peu près ce qu'on va trouver. Alors que l'histoire, il faut d'abord qu'on la lise, finalement. Et le problème, c'est que pour la lire, il faut d'abord qu'on achète le livre. Donc c'est aussi c'est un peu le problème, finalement. On est un peu obligé, quelquefois, entre guillemets, d'acheter les yeux fermés par rapport à ce qui concerne l'histoire, mais on sait par rapport au nom de l'auteur qui est sur la couverture vers quoi on se dirige à peu près, et donc on minimise aussi le risque finalement à ce niveau-là
on minimise aussi le plaisir de la vie, parce que
je suis que l'avocat du diable.
Voilà, si on devait acheter toujours la même boîte de conserve et tout, parce qu'il est marqué dessus casse-grain ou j'en sais rien d'autre, alors que justement, choisir un nouveau plat, chercher quelque chose d'autre, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Bon, mais je pense que c'est tout le jeu de la littérature, tout le plaisir, tout le sel d'aller dans une librairie et d'effectivement d'être attrapé par le packaging qui est la page de publicité du livre, la première de couverture. Ensuite, parce que ça, c'est l'image et prime, hein, surtout, de toute façon. À partir de là, ça donne envie de quoi faire, bah, de retourner le bouquin et de regarder cette quatrième de couverture et de voir cette accroche qui va vous donner envie de lire, donc d'acheter. Voilà le principal boulot de l'éditeur, hein, de faire des objets qui donnent envie. Et puis... Et ensuite, tout le sel et tout le plaisir, c'est-à-dire est-ce que moi-même j'ai détecté la pépite qui me donnera du plaisir dans 2 heures ou une semaine de lecture, voilà. Et puis oui, des fois je gagne, des fois je perds, mais je trouve ça vachement intéressant dans la vie.
Parce que c'est le nom, enfin à part pour évidemment les gros vendeurs, voilà, il n'assure pas forcément
décliner tout le temps le même auteur en disant voilà, les yeux fermés. Je trouve pas ça génial non plus.
C'est que Philippe Claudel, par exemple, m'avait raconté qu'il avait reçu une énorme offre d'Albin Michel après Les âmes grises, pour écrire Les âmes grises 2, quoi, en gros. Donc c'est vrai que ça, lui, il avait dit non, même pour le grand nombre de zéros qu'il pouvait y avoir avant la virgule, juste parce que ça ne l'intéressait pas de faire la même chose. Brice, sur ce débat-là, justement, sur cette question-là, c'est aussi quelque chose qui...
J'entends parler d'histoire. Il n'y a pas que l'histoire qui importe. Moi, je sais que je suis fidèle à des auteurs en tant que lecteur. Pierre Pelot, par exemple, pour moi, c'est un style. C'est tout un univers. Donc, des fois, peu importe l'histoire, rien que la lecture, le charme, l'ambiance, les personnages, ça m'incite à rester fidèle à Pierre Pelot et à d'autres.
Oui, puis encore une fois, on est dans une période où on a quand même tellement de livres qui sortent que parfois, on est un peu obligé de se raccrocher aussi à des choses qu'on connaît, non ?
Oui, c'est plus simple pour s'y retrouver dans une librairie, mais enfin, je connais un peu tout ce qui sort.
Après, les goûts entrent en jeu. Hein,
oui, puis moi, c'est particulier parce que j'aime les auteurs prolifiques, comme Pierre Pelot, comme Arnaud, pour parler des auteurs populaires. Et quand je lis un auteur, je lis tout. Donc,
Vous avez lu tout Pierre Pelot ?
Mais j'ai fait mieux que ça, j'ai lu tout, si, mais non. Alors, je ne suis pas un exemple.
C'est sympa votre bibliothèque. Moi, je me pose quand même une question en vous écoutant. Je trouve que vous n'avez pas beaucoup d'ego tous les trois.
Si, si, énormément, surtout à cette heure-ci.
Mais plus sérieusement, est-ce que vous n'avez pas envie que votre nom reste ?
Non,
que ce soit le vrai ou le pseudo, mais...
Non, moi, la seule chose que j'ai envie de voir rester, c'est le sourire sur le visage d'un lecteur. Là, je regarde Lise Bey, elle me regarde aussi. Voilà, je sais qu'elle a bien aimé certains de mes bouquins, d'autres un peu moins. Ça, que ça reste, ça me fait plaisir. Concernant les pseudos et les noms, je suis prêt à parier que si un de mes bouquins signé Tartampion se vend à 30 ou 40 000 exemplaires, l'éditeur sortira le prochain sous le nom Tartampion. Et 30 ou 40 000 personnes commenceront à devenir fidèles. Moi, je suis dans des domaines de 1000 ventes. La fidélité, j'ai plutôt envie d'essayer des choses différentes jusqu'au moment où je perdrais le plaisir d'essayer autre chose. Bon, si je veux vraiment me creuser la cervelle, pourquoi Laurent Gidon, pourquoi Don Laurenji, je dirais que ce qui est écrit sous Don Laurenji a peut-être plus de recherche formelle, et ce qui est écrit Laurent Gidon a peut-être plus de recherche sur les personnages. Voilà. Mais justement, ceux qui vont bien rigoler en lisant les blagues à part seront peut-être très contents d'avoir lu un Don Laurenji et trouveront un Jib Lancourseur très lourd parce qu'ils ne retrouveront pas le même style d'écriture. Donc oui, la fidélisation, mais fidélisation... Par exemple, on parlait de Pierre Pelot. J'aime pratiquement tout ce qu'a fait Pierre Pelot. J'aime tout ce qu'il a lu de lui. Je l'ai découvert avec un bouquin qui s'appelait La Drave quand j'avais 12 ans. J'ai lu des Pierre Pelot où je me suis dit, c'est pas du Pelot. Et j'ai pas été déçu par Pierre Pelot, j'ai été déçu par son bouquin dans lequel j'ai pas réussi à rentrer. Je crois que c'était Les Normales Saisonnières, qui est certainement un grand livre. Mais je me suis dit, c'est pas du Pelot. Ou en tout cas, c'est pas
un exercice de style, on va dire.
C'est pas mon Pelot. Donc en gros, je me suis construit un Pelot. Il a en plus une science des titres incroyable. J'ai titré un bouquin, Le chien courait sur l'autoroute en criant son nom. Merde, faut quand même savoir faire ça. Les Normales Saisonnières, je trouvais le titre excellent. Surtout, j'avais lu Méchamment Dimanche avant, que je trouve quand même un de ses meilleurs titres, de deux mots et bah. Et ben dans Les Normales Saisonnières, j'ai pas retrouvé mon Pelot qui n'existe pas. C'est ma construction. Donc, oui, la fidélité à un auteur, quitte à se dire de temps en temps, cet auteur-là, sous ce nom-là, eh ben, j'ai pas réussi à être touché. Donc, il aurait pu le signer d'un autre auteur.
C'est accidentel, presque. Les Normales Saisonnières, c'est un des rares livres où, effectivement, on sent moins Pelot, mais ça reste quand même Pelot. Mais c'est vraiment accidentel sur, je sais plus, 180 romans.
Non, mais ça reste tellement Pelot que c'est lui qui l'a écrit. Oui. Et je pense que ça correspondait à une nécessité pour lui de l'écrire comme ça. Et
ça, en plus, ça se respecte en Bretagne, tout à fait. Ça...
C'est quelque chose que je respecte tout à fait. C'est vraiment dans la relation entre lui et moi que ça ne s'est pas passé.
On va revenir à...
À la postérité.
Est-ce qu'on est... Oui, narcissique.
Bon, c'est un gros mot, peut-être, non, mais...
Non. De facto, on rentre à la BN, hein, dès que Bibliothèque Nationale, dès qu'on a publié quelque chose. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a un des conservateurs qui m'a appelé en me disant j'aimerais récupérer tous vos manuscrits et tout ce que vous avez écrit. Alors j'ai dit, vous avez mon bilan médical avant moi, vous avez reçu, ça sentait un peu le sapin quand même quand on vous demande ça. En fait, bon, il est très sympa et il œuvre justement pour récupérer ce qu'a négligé la BN pendant des années et d'aller rechercher des choses. Et il m'a montré, puisque après j'ai été le voir, des manuscrits, par exemple de Pierre Boulle, hein, plein des sages et tout ça était perdu, enfin était dans un grenier, ne servait à rien, donc les héritiers l'ont donné bien volontiers, donc pour essayer de vraiment de sauvegarder du patrimoine. Donc il y a ça, de facto on y est. Après, effectivement, moi, je pense qu'il peut y avoir un côté un peu narcissique des auteurs de se tout au moins perdurer après leur mort, c'est-à-dire de savoir qu'un jour, éventuellement, dans un grenier, dans une brocante, il y a quelqu'un qui va récupérer un de vos livres et les bouquiner et puis dire « Ah oui, tiens, c'est pas mal » ou « Non, c'était pas bien, mais ça a bien vieilli » ou alors « Putain, comment le mec a pu écrire un truc pareil ?»
Ou c'est bien représentatif de son époque.
Voilà, c'est ça. Et oui. Donc il y a un petit côté narcissique, je pense, oui, quand même.
Brice, vous avez...
Oui, bah c'est ça, le côté de se retrouver dans un grenier, ça me plaît bien. Oui, en plus, j'ai eu quelques traductions, donc imaginez que, comme j'ai écrit pour les gosses, une petite fille dans un grenier va ouvrir un vieux bouquin, c'est agréable. En plus, on est sur...
Les pages ont un peu jauni, sont un petit peu le renfermé.
Oui, puis je crois que tout livre a d'importance.
C'est des choses que j'ai faites moi-même.
Ceux qui ont écrit l'Arlequin et tout, je suis persuadé que dans 50 ans, il y a un universitaire qui fera une thèse sur la représentation de l'amour au 20e siècle à travers les romans sentimentaux Arlequin. Voilà,
ça a peut-être été fait même.
Mais c'est quand même incroyable que vous nous expliquiez qu'à la limite, pour vous, il vaut mieux être retrouvé dans 50 ans dans un grenier que finalement d'avoir des gens qui viennent vous consulter à la BN. Ça peut paraître surprenant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Ah, il y aura les deux, de toute façon.
Hein. Vous trouvez pas qu'ils sont quand même très modestes, les trois, là, quand même?
Mais pourquoi? On va pas. On n'a pas une image. Parce que c'est la transmission, c'est l'image qui permet tout. Tu parlais d'Henri Novenbruck. À partir du moment où il est 4x3 partout dans le métro, à ce moment-là, on travaille sur l'image de la personne. Et l'image, il l'a changé lui-même. Hein. Il était bien en chair, je l'ai connu aussi. Et il n'était pas blonde. Voilà. Non, mais il faut le dire, c'est tout. Ça fait partie de l'image d'un seul coup qu'on met en avant. Après, ça n'enlève rien à son talent d'auteur. Mais à partir du moment où on commence à travailler sur l'image de l'auteur, ben voilà, oui, effectivement, il faut mieux être jeune, beau et svelte que vieillissant et bien en chair.
Et finalement, est-ce que ce qui compte pas le plus...
C'est gentil de parler aussi bien de moi.
Non, mais ce qui compte pas le plus, c'est le retour finalement des gens qui vous lisent.
Le retour, il rassure. Il rassure. Enfin, pour la jeunesse, c'est mieux quand même, parce que la jeunesse, vous allez dans les classes, un gamin se plante devant vous, il dit « j'ai pas aimé ton livre ». Et il n'y a aucune perversion dans ce qu'il vient de dire. Il le dit,
il n'y a pas d'animosité.
Il n'y a rien. Un adulte, l'adulte va venir devant
j'ai
vous.
Payé 20, dire, j'ai payé 20 euros et je ne suis pas content.
Non, c'est plus, encore beaucoup plus pervers. C'est « cher monsieur, j'ai lu tous vos livres ». Le premier est bien.
La suite qui va pas.
Voilà, c'est ce genre de choses. Donc voilà, l'adulte met des masques, va venir titiller à la limite. Bon, très rares sont ceux qui vont arriver et dire non, c'est vous qui avez écrit cette merde. Vraiment, j'ai payé 25 euros, si vous pouvez me rembourser. Bon, voilà.
Brice, sur le retour, justement.
Moi, j'ai été surpris de jamais avoir eu beaucoup de critiques. Mais peut-être qu'ils s'en foutaient.
Mais justement, dans un salon comme celui-ci, les gens qui viennent vous voir un peu, il y a...
En général, c'est sympa, ils ont aimé. C'est-à-dire que en littérature, ce que je trouve l'obstacle, c'est l'éditeur. Pardon. C'est l'éditeur parce que on a l'impression que si on était directement en contact avec le lecteur, il n'y aurait pas cette barrière de l'éditeur qui fait flancher des projets, qui fait traîner des projets, qui les noie, qui... Alors qu'entre lecteur et auteur, je ne sais pas, ça se passe toujours bien.
Laurent, est-ce que c'est le plus important ?
C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, à ce moment-là, il y a l'auto-édition. Mais là, il y a un autre problème, c'est le diffuseur.
La distribution.
Dans ce cas-là, on est éditeur, on n'a plus le temps d'écrire. Alors, c'est un problème aussi.
Et Laurent, alors justement, sur le retour, est-ce que ce n'est pas le plus important, finalement ?
Moi, pour moi, c'est vraiment le plus important. D'abord parce que on parlait de postérité et de grenier tout à l'heure. Moi, tous mes manuscrits tiennent sur une clé USB et pas encore une grosse. Donc, et peut-être que dans 10 ans, ce sera un format qu'on ne pourra plus lire. Donc vraiment, en ce qui concerne...
Mais ça prendra moins de place à la BN.
Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Qu'on aille me chercher sous la poussière, oui, pourquoi pas. Mais de toute façon, on ne pourra plus lire la clé. Le retour, c'est ce qu'il y a de plus important. Parfois, ou même à chaque fois... On m'envoie une petite interview, des petites questions. Il y a toujours quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a envie d'écrire ? Et ce que j'ai envie de répondre toujours, parce que c'est ce qui m'a toujours poussé, c'est pas de se demander pourquoi on écrit, mais pour qui. Et à partir du moment où on a trouvé un pour qui, eh ben on écrit. On ne se pose plus de questions parce qu'on a envie de transmettre quelque chose. Et la seule chose qui m'intéresse au-delà des chiffres des ventes. Les chiffres des ventes m'intéressent pour mon éditeur, pour qu'il ait envie de retravailler avec moi, ou même simplement pour qu'il survive. Mais la seule chose que j'aime vraiment, c'est savoir que la secrétaire de ma femme, par exemple, à qui j'ai prêté mon dernier bouquin, a tellement adoré qu'elle est allée tout de suite en acheter 3 pour les offrir à ses copines. Je me dis, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit.
Elle n'avait pas envie d'être virée, c'est peut-être...
C'est exactement ça. Mais je m'en fous.
Non, moi, j'ai
méchant avec moi, cette heure-ci.
Je viens d'avoir une vision d'horreur, c'est d'imaginer une exposition. Moi qui trouve toujours que c'est tellement émouvant d'être face au manuscrit. Et j'imaginais Victor Hugo, Balzac et puis Laurent Gidon avec juste la clé USB.
Ah non, mais...
Je me dis, c'est terrible.
Tous mes manuscrits sont là dans la poche. C'est une petite clé USB, il n'y a que ça. Parce que je travaille direct en informatique et que les versions successives sont écrasées parce qu'elles n'étaient pas bonnes de toute façon.
Non, mais c'est bien le problème de la conservation. On en a parlé justement avec le conservateur de la ABN. Pour l'instant, la ABN n'est pas du tout... au top là-dessus, même rien du tout. Donc il va y avoir quand même, avant que ça se mette en route, il va y avoir de la déperdition, c'est sûr. Et la déperdition de manuscrit, on voit où le gars a rayé cette phrase et a remis autre chose. Oui. Donc là, est-ce que tous les auteurs ne font pas, gardent pas les versions successives de leurs manuscrits, ne gardent que la fin? Et encore, cette dernière mouture n'est pas la vraie mouture, puisqu'il y a eu des corrections qui sont intervenues ce que après dire. Chez l'éditeur. Donc,
J'ai vu Fabrice Collin travailler sur des corrections sur épreuve. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait garder. Parce que Fabrice Collin, qui avait quand même... C'était sur la saga Mendelssohn. Il travaillait là-dessus à Cluse cet automne. Il en était au travail sur épreuve. Et je voyais que sur chaque page, une ligne sur deux, il la réécrivait pratiquement. Je pense que les épreuves sur lesquelles on travaille, oui, ça vaudrait le coup de les garder. Pour voir justement jusqu'où va le dernier coup de fer d'un auteur. Après, tout le travail qu'il a fait tout seul avant pour s'auto-censurer, améliorer, couper, bon, à la limite, c'est sa sauce. Mais une fois que le truc est imprimé, maquetté par l'éditeur, se dire qu'est-ce qu'on va encore faire pour que ce soit meilleur ? Ça, si on pouvait garder ces
trucs-là, ça fait remarquer
que
sur à peu près tous les contrats d'éditeurs, il y a marqué que si les corrections dépassent 10%, c'est à ta charge. Hein. Donc,
Fabrice, apparemment, il a les moyens.
Merci en tout cas à tous les trois. Bah, vous pouvez retrouver les auteurs sous la bulle du livre, évidemment, et les vrais en plus, les originaux, hein, pas seulement les alter ego.
C'est marqué dessus, vous pouvez pas vous tromper.
Demandez à vérifier quand même, hein. Demandez les papiers d'identité.
Ce t-shirt, c'est l'expression exacte de ce à quoi sert un pseudo. La première fois que je suis venu aux Imaginales, j'avais une nouvelle dans une anthologie d'un tout petit éditeur qui se lançait. Comment arriver là-dedans et dire « je suis moi, personne ne me connaît ». Eh ben, je me suis floqué un t-shirt avec mon nom, enfin mon pseudo en gros dessus, et je pouvais faire n'importe quoi. D'ailleurs, je ne me suis pas privé. C'était dans l'eau.
Eh ben voilà, bonne leçon peut-être pour les futurs auteurs qui pouvaient être éventuellement parmi nous et qui chercheraient des idées à ce niveau-là. Merci à tous.